Voilà, vous écoutez Radio Ndekiluka sur les www.radiondekiluka.org. Il est 12h30 universelle, 13h à Bangui, capitale centrafricaine, suivant la grande édition avec Reine Fabienne Dotiga. Reine Fabienne, bonjour.
Bonjour Nina Verdian Yaboudé, bonjour à tous. À la une de ce journal, coup d'état en Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé est depuis hier dans les mains des putschistes. Leur réaction au début de ce journal. Dans ce journal, le calme est revenu à Zemio dans le Mbomou. Les habitants commencent à regagner leur domicile. Précision dans un instant. Et puis, mécontentement des professionnels des médias, la presse centrafricaine déplore le comportement des agents de sécurité et de protocole des autorités du pays. Football, la République centrafricaine joue à 17h contre le Libéria. Match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar 2022.
À la une de ce journal, vous le savez depuis hier, Alpha Condé n'est plus président de la Guinée-Conakry.
Effectivement, Verdian, c'est le commandant des forces spéciales, le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'accapare du pouvoir. Alpha Condé, désormais ancien président guinéen, venait à peine d'aborder son troisième mandat, très controversé par l'opposition et une partie de la population. Emmanuel Samboli, l'armée guinéenne, reprend le pouvoir à Alpha Condé, mais c'est un coup d'État condamné par l'Union africaine et les Nations unies.
Oui, Rennes. Le coup d'état d'hier n'a duré que quelques heures. Après l'arrestation du président Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya, responsable du groupement des forces spéciales de l'armée guinéenne, s'est exprimé à la Nation, un message qui circule en boucle sur les réseaux sociaux.
Guinéennes et Guinéens, chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée.
Des réactions n'ont pas tardé après ce putsch. L'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont condamné ce coup d'État et l'arrestation du président Alpha Condé. Elle invite par ailleurs le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à se réunir d'urgence pour examiner la nouvelle situation et prendre les mesures appropriées. Sur sa page Twitter, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné la prise du pouvoir et du gouvernement par la force. Il demande la libération immédiate du président Alpha Condé.
Emmanuel Samboli, et après ce coup d'État, c'est l'inquiétude au sein de la population. Le président Alpha Condé se trouve encore entre la main des putschistes. Pour le moment, comme vous l'avez entendu, la constitution et le gouvernement sont suspendus, un couvre-feu est instauré et toutes les frontières du pays fermées. Selon le leader de ce coup d'État, le colonel Mamadi Doumbouya, les frontières aériennes seront également fermées et une équipe de transition sera mise en place avec la participation de tous les partenaires. Les putschistes ont convoqué les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion ce lundi au Palais du Peuple. Selon eux, tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion.
Le journal se poursuit sur Radio Ndekiluka. Revenons au pays et mettons le cap sur la ville de Zemio dans la préfecture du Mbomou. La situation sécuritaire et humanitaire s'améliore.
Effectivement, Verdian, la ville de Zemio est calme, mais la population vit encore avec la peur au ventre parce que les rebelles ne sont pas encore désarmés. Astrid de Bonheur-Colingué s'est intéressée à la situation de Zemio.
Un calme timide règne à Zemio. Cultivateurs, chasseurs, commerçants et humanitaires vaquent à leurs occupations, même si des rebelles de l'UPC sont encore dans la ville. Ces rebelles ont presque cessé les exactions sur la population, mais gardent leurs effets militaires et sont toujours présents sur les barrières. Un habitant de Zemio, joint au téléphone, décrit la situation.
À Zemio, la population est dans la peur parce qu'il y a toujours des présences des groupes armés, CPC qui se trouvent dans la ville et sur les axes qui mènent à Moki, il y a les groupes armés qui sont là, sur les barrières et aussi les axes qui mènent à Démage. Donc la population est toujours vraiment dans l'inquiétude à Zemio ici à Zemio. Elle ne veut pas aller de loin de 10 km ou bien moins de 15 km pour aller cultiver. J'ai vu que vraiment il y a une moitié de la population qui est ici actuellement à Zemio.
Cette situation perdure parce qu'il n'y a pas sur place des forces gouvernementales. Rosalie Nahuira, maire de Zemio, est actuellement à Bangui.
La paix commence déjà à revenir, mais nous avons besoin des forces de l'ordre. Les rebelles de l'UPC et de LRA qui sévissent depuis 2008 dans la localité veulent être désarmés. Mais nous n'avons pas ce pouvoir. Ils sont estimés à plus de 300. C'est pourquoi nous lançons cet appel au gouvernement pour envoyer les forces centrafricaines.
Cette peur mûrie dans le cœur de la population a un impact considérable sur la situation alimentaire à Zemio. Une cuvette de manioc qui coûtait 1500 francs est maintenant à 10 000 francs parce que les cultivateurs ne peuvent pas aller au-delà de 10 km.
Dans cette édition, c'est l'exaspération depuis quelques jours au sein de la presse centrafricaine.
De nombreux journalistes ont brisé le silence pour dénoncer une entrave à la liberté de la presse. Ces professionnels des médias déplorent le comportement de certains agents de sécurité et des services de protocole des autorités centrafricaines. Plusieurs fois, des journalistes ont été chassés, humiliés, menacés et agressés verbalement lors des activités officielles. Bonaventure Ngoma Katikiro.
Le ras-le-bol est presque général au sein de la corporation. De nombreux journalistes sont montés au créneau, dénonçant sur les réseaux sociaux les menaces et humiliations qu'ils subissent dans l'exercice de leurs fonctions. Bienvenue Doumta, directeur de publication du quotidien La Fraternité.
Cette situation s'est vraiment accentuée dans ces derniers temps. Pas plus tard, avec la délégation qui était venue de la Libye. Au dernier moment, la presse était chassée. Et non seulement chasser la presse, mais avec des mots qui ne devaient pas être à leur place. La cérémonie inaugurale de la base logistique de l'armée centrafricaine. Un haut gradé qui ose dire aux journalistes qu'il faut quitter les lieux parce que cette cérémonie concerne l'armée. Ce cercle de sécurité ou soit de protocole qui pense que le travail de journaliste se résume peut-être à ce qu'ils ont dans la tête, ils sont en train de se tromper largement.
Evody Ngarafo est journaliste. Pour elle, le travail des hommes de médias évolue avec le développement des nouvelles technologies. Cependant, de nombreux agents de sécurité et de protocole ne sont pas à la page de cette évolution.
Quand nous sommes dans l'exercice de notre fonction, nous voyons ces soi-disant rapprochés venus nous interdire. Il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de nouvelles technologies. Tout ne se fait plus avec les gros appareils. Nous pouvons juste avoir un téléphone, on fait tout, on fait les articles, on fait tout sur le téléphone. Alors comment se fait-il que les protocoles peuvent nous dire de ne pas filmer avec les téléphones? On nous empêche.
Vu la montée du mépris vis-à-vis des journalistes lors des cérémonies officielles, l'Union des journalistes de Centrafrique, UJCA, brise aussi le silence. Tita Samba Solé, son président.
C'est vraiment déplorable. La mission des agents de protocole est basée sur la courtoisie, qui est l'un des piliers de la diplomatie. Je pense aussi que la mission des forces de défense de sécurité est de protéger les citoyens, mais pas d'empêcher les journalistes à faire leur travail. Nous demandons donc au gouvernement d'enjoindre leurs agents, les agents de protocole et les agents de l'État qui font de la sécurité leur apanage, de laisser travailler les journalistes librement.
De son côté, le Haut Conseil de la communication se dit inquiet et envisage de se prononcer très prochainement. Contacté par Radio Ndekeluka, le ministre de la Communication Serge Diori dit ne pas être au courant de ces dérapages. Néanmoins, il souhaite être saisi par écrit en vue d'une réponse appropriée.
13h08 minutes Rennes, si le chantier se concrétise, une nouvelle cité verra jour à Mboko dans le sud-est de Bangui.
Uverdenne, elle sera baptisée Perrineville et comportera plus de 40 000 logements. Les travaux seront financés à hauteur de plus de 700 millions de dollars par Global Green Fund, une banque verte anglaise. L'espace est déjà disponible et la signature du contrat pour le démarrage des travaux a eu lieu ce samedi en présence des partenaires et des autorités locales. Magloire Colisso Débalet, initiateur de ce projet, est interrogé par Chris Wajordan Badengba.
Alors le projet a vu le jour il y a 4 ans et il nous fallait trouver donc un site et le site de Mboko a été choisi. Donc on va construire à peu près 40 000 maisons sur les 15 prochaines années. On va démarrer au mois de décembre. Aujourd'hui c'était la signature de convention et des chèques qui va nous permettre de lancer en décembre les premières maisons témoins. Donc ce qui veut dire qu'on va faire au nord, au sud, est, ouest des maisons témoins et des routes qui vont pouvoir traverser. Et à fur et à mesure la ville elle va s'agrandir. Je veux dire les places de foot, les places pour faire le collège, les lycées, les maternelles, les marchés, tout ça.
Parlons de la culture dans ce journal avec le projet artistique Africa 2020 en France.
54 pays d'Afrique doivent présenter leur culture au théâtre de la ville à Paris. C'est à travers la danse tradie moderne, le théâtre et le conte. Pour la République centrafricaine, l'espace Linga intérêt a choisi le groupe Ango Trogodé de Hippi, les chanteurs Idil Mamba, Mondez Mondésir et Dr Madike. Ils sont déjà en pleine répétition pour ce festival. Francis Clavercal a pris part à une séance de répétition des Ango Trogodé de Hippi.
Les instruments traditionnels et modernes de la musique centrafricaine résonnent sur la scène du spectacle Mutombo Bishi. Pour Vincent Mambachaka, directeur de cette création, c'est l'occasion de mettre en valeur les instruments Ango Trogodé sur scène.
L'enjeu pour moi, c'est de dire on doit valoriser à la fois cet instrument-là, on doit valoriser cette musique-là, mais en même temps, comment des jeunes centrafricains ou des jeunes africains peuvent s'approprier de cet instrument-là qui vient de la tradition pour en faire une musique contemporaine et moderne.
C'est la première fois qu'Idil Mamba travaille avec le groupe et les instruments traditionnels.
C'est la première fois que je travaille avec les instruments traditionnels de la République centrafricaine. Et donc, c'est avec beaucoup d'émotion de me dire que tout ce que nous faisons, tous les instruments que nous utilisons aujourd'hui dans notre musique actuelle vient de ces instruments traditionnels.
Ango Trogodé signifie tronc d'arbre de mon ethnie. Jonas Matipou, secrétaire général du groupe, apprécie cette initiative et le choix de leur groupe.
Ce sont nos ancêtres qui nous ont légué cette tradition musicale. C'est un héritage. C'est pourquoi nous sommes venus la présenter au public centrafricain et ensuite en France. Nous remercions tous les organisateurs. Nous allons donner une belle image de la République centrafricaine à l'étranger. Le pays est très en retard.
Le spectacle sera présenté à Paris au Théâtre de la Ville à l'occasion de la journée sans voiture le 19 septembre.
Venons-en à cette réaction de l'Office national des sports, ONASport, par rapport à la polémique de ces derniers jours sur l'occupation d'espace au sein du stade de Bangui.
Selon son directeur général Hervé Lidamon, certains occupants du complexe sportif Barthélémy Boganda ne respectent pas les clauses du contrat qui les lie avec cet office. Il précise par ailleurs que des efforts sont en cours pour la sanction infligée par la Confédération africaine de football, CAF, soit levée. Ida Lutindiko vient de faire son entrée pour la page des sports de ce journal. Ida, bonjour.
Bonjour Reine Fabienne Dotiga, bonjour à tous.
Football éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022, la République centrafricaine joue son deuxième match cet après-midi contre le Libéria.
Le match est prévu à Douala, au Cameroun. Le coup d'envoi sera donné à 17h. Les Fauves, avec un point dans ce groupe, vont tenter de faire un bon résultat au stade de Japoma à Douala. Aristide Brion-Reboise, ministre de la Jeunesse et des Sports, actuellement à Douala, se dit optimiste pour la victoire des Fauves.
En tant que ministre et premier supporter des Fauves, je suis venu marquer de ma présence par là aussi la solidarité du gouvernement et derrière moi le poids de 623 000 km² et les 5 millions de Centrafricains. J'ai retenu quelque chose de formidable, c'est que le foot centrafricain est en marche. Je tiens aussi à rappeler le match nul avec sur le terrain au moins 8 locaux que personne ne les connaisse encore. Et donc aujourd'hui, ils se sont fait connaître par le jeu et donc je suis là pour leur rappeler qu'ils ne sont plus de petits joueurs. Ils sont des grands joueurs et sur leur épaule repose l'espoir de tout un peuple. C'est quand même important pour qu'ils créent des repères. D'abord, ils jouent pour eux, pour leur propre carrière. Et le gouvernement est là pour les encourager, pour les soutenir et pour espérer que non seulement la victoire a une raison, il faut savoir comment maintenir la dynamique pour que la victoire se répète. Il faut tirer des leçons et pour garantir les conditions de succès dans l'avenir. J'ai foi et je rends grâce à Dieu parce que je sais que ce qui arrivera réjouira encore davantage le cœur du peuple centrafricain.
Football encore, la Sous-Ligue de Maya Maya a un nouveau président.
Il s'agit de Isidore Kobanga, élu hier au cours de l'Assemblée générale tenue dans les locaux de l'école Pétévo dans le 6e arrondissement de Bangui.
Afrobasket 2021, fin du tournoi hier au stade de Kigali Arena au Rwanda. La Coupe d'Afrique de basketball a été remportée par la Tunisie devant la Côte d'Ivoire 78 à 75.
Les Tunisiens conservent leur titre de champion d'Afrique remporté en 2017 à Tunis. La troisième place est remportée par le Sénégal qui a battu le Cap-Vert 86 à 73.
Et puis Eda, des joueurs et entraîneurs ont été distingués dans ce tournoi.
Ses meilleures performances ont été récompensées. Il s'agit d'abord des cinq majeurs. Le meilleur joueur ou MVP est le Tunisien Ben Rodmad. Le meilleur marqueur est l'allié fort sénégalais Gorgui Sidiang avec 120 points. Le meilleur rebondeur est le pivot capverdien Walter Tavares qui a 71 rebonds dans ce Afrobasket. Le meilleur tireur à 3 points, c'est Carlos Mares, l'arrière angolais avec 19 titres. Primé réussi. La FIBA a aussi récompensé un trio pour avoir écrit l'histoire à l'Afrobasket. Le Tunisien Slimane Radouane qui a participé pour la 9e fois au tournoi africain. Il est suivi de l'Ivoirien Stéphane Konaté qui lui a 8 participations. L'entraîneur du Kenya, Liz Mills, est récompensée comme la première femme coach à l'Afrobasket. La RCA termine 14e sur 16 pays participants avec 3 matchs, 1 victoire et 2 défaites.
Merci à vous Eda Lutindiko. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre fidélité d'écoute. La version sans goût, c'est tout de suite.